voix nue. Cette semaine, Jérôme Clément rencontre Fabienne Servan-Schreiber. Ce soir, héritière et rebelle.
Bonjour Fabienne Servan-Schreiber.
Bonjour Jérôme Clément.
Alors nous sommes chez vous, dans un appartement qui frappe par le nombre de livres et de photos. Il y en a absolument partout, des livres de photos qui racontent votre vie. Et c'est cette vie dont on va parler toute cette semaine. On vous voit sur les photos, crinière au vent, regard déterminé, sourire ou rire éclatant la plupart du temps. Et on est frappé par votre allure, votre assurance, votre beauté, une femme flamboyante dont les talents s'assument dans tous les domaines de la vie d'une femme. Évidemment, nous avions prévu ces enregistrements en janvier, parce qu'il me paraissait intéressant de parler avec une productrice de télévision, une femme engagée dans son époque. Et puis est arrivée la pandémie du coronavirus, et avec elle un drame qui vous a fait perdre votre mari, Henri Weber, personnalité politique bien connue, l'homme de votre vie, qui nous a quittés en Avignon en mars dernier. Mais courageusement, vous avez accepté de reprendre notre projet et de réaliser ces émissions qui seront dédiées, si vous le voulez bien d'ailleurs, à Henri Weber, parce que la vie continue, qu'elle reprend. Et c'est la raison pour laquelle nous avons choisi comme titre pour toutes ces émissions Fabienne Servan-Schreiber, une grande vivante. Formule qu'utilisait d'ailleurs souvent Henri, je crois qu'il ajoutait d'ailleurs une grande aimante.
Oui, ça c'est vrai. Une grande aimante.
Alors aujourd'hui, pour cette première émission, nous allons la consacrer à votre famille. Pas seulement la famille Servan-Schreiber, parce qu'il y a l'autre branche. Une grande famille, comme aurait dit Maurice Druon. Une grande famille. On y va ?
Oui, volontiers.
Alors qu'est-ce que c'est d'être issu d'une famille de la grande bourgeoisie ? En quoi ça consiste ?
Alors d'abord, ça consiste à être privilégié, parce que vous naissez dans une famille qui a des moyens, vous vivez dans des très beaux endroits, vous passez des très belles vacances, vous êtes élevé dans des belles institutions. La première chose importante, c'est d'avoir conscience qu'on a eu la chance de naître dans un milieu privilégié. Vous avez accès à la culture, à l'instruction.
Alors les beaux endroits, qu'est-ce que c'est par exemple ?
Alors par exemple, les beaux endroits, c'était des vacances à Dinard, où mon arrière-grand-père maternel avait acheté une tellement belle maison que c'est la maison que la Gestapo a choisi d'envahir pendant la guerre. Donc c'était certainement une des plus belles de la ville. C'est un château à Montfrin dans le Gard, puisque mon grand-père paternel, Robert Schreiber, avait acheté ce château à ma grand-mère dans les années 20. Il lui avait d'ailleurs dit « je veux acheter un écrin à ta beauté ». Bon, inutile de vous dire que moi j'ai toujours attendu mon château que j'ai jamais eu. Ça veut dire une maison de campagne à Senlis qui était chez mon beau-père, ça veut dire Mégève, où j'ai passé tous mes hivers, puisque là aussi du côté de ma famille et maternelle et paternelle, ils ont été un peu à l'origine de cette station. Donc on a été gâtés, a été très gâtés sur le plan matériel.
Et vous oubliez l'hôtel particulier rue Barbet-Jouy.
Voilà, et après le divorce de mes parents, j'ai même été élevée, vous avez tout à fait raison, dans un hôtel particulier, rue Barbet-Jouy, qui est une rue extrêmement chic, dans un 7e arrondissement, des études à Sainte-Marie-des-Invalides, tout ça est tout à fait chic et élégant. Et m'a apporté beaucoup de choses, mais pas tout.
Oui, alors qu'est-ce que ça fait de vivre dans un milieu, une cuillère d'argent dans la bouche, comme on dit ? Quel rapport aux autres, aux élèves qui vous côtoyaient, quel rapport aux autres ça crée ?
Alors, l'école de Sainte-Marie avait l'avantage de nous donner une éducation assez exigeante, en nous forçant à être vraiment dans l'exception, si on peut dire, mais en même temps, il fallait qu'on soit toutes les mêmes, il y avait une homogénéité des milieux sociaux. Et par exemple, je me souviens très bien quand une jeune fille arrivait une nouvelle et qu'elle avait un espèce de jabot et des chaussures qui n'étaient pas comme nos mocassins très chics, on avait une petite tendance à la rejeter. Donc ça n'est pas positif dans l'éducation que j'ai eue dans un premier temps. Et en revanche, elles nous ont appris des choses. Je me souviens par exemple d'une merveilleuse religieuse qui s'appelle Mademoiselle Dulce, que d'ailleurs les anciennes, parce qu'on est un groupe d'anciennes qui continuent à nous voir, ça fait quand même il y a 50 ans, même plus. Cette Mademoiselle Dulce m'avait dit un jour, vous savez Fabienne, dans l'amitié, il faut être vigilante sur deux points. Le premier point, c'est que votre amitié stimule en vous le meilleur de vous-même. Et le deuxième point, c'est qu'elle ne soit pas exclusive des autres. Et finalement, ce sont des paroles de bon sens qu'on peut appliquer à autre chose qu'à l'amitié, à toutes les relations et même aux relations amoureuses.
Mais vos meilleures amies, elles étaient comme vous, ou vous les choisissiez un peu à part, ou vous étiez tellement toutes sur le même modèle que c'était les rallyes,
mes premières amies viennent de ce milieu de toute évidence, et je les ai gardées comme amies, beaucoup d'entre elles, donc j'ai jamais rejeté tout ça. C'était un ordre intelligent parce que c'était un ordre civil, c'était des bonnes sœurs en civil qui avaient créé l'ordre de Saint-François-Xavier avec comme objectif pédagogique de s'occuper des deux extrêmes, si je puis dire, de la société, c'est-à-dire des milieux les plus favorisés. Donc il y avait Sainte-Marie des Invalides, Sainte-Marie de Neuilly, Sainte-Marie de Passy, et puis des hérités aussi, elles avaient créé des écoles Saint-François-Xavier à Bobigny, dans la banlieue et également en Afrique. Ça, c'est la première partie de mon éducation. Après, je suis partie au lycée Victor Duruy. Et alors là, j'ai vu l'extrême diversité de ces jeunes filles, ce qui m'a fait évidemment un bien fou, parce que les filles de 17 ans, à l'époque, 16 ans, il y en avait qui étaient...
C'était pas un lycée mixte.
C'était un lycée purement féminin.
Purement féminin, oui.
Et alors là, mes copines, il y en avait qui étaient des communistes, alors pour moi, c'était le bout du monde. Il y en avait qui couchaient, qui était l'horreur absolue à mes yeux. Bon, il y avait une grande diversité sociale, ce qui, évidemment, est très, très stimulant. Et il y avait des pensionnaires. Et comme la rue Barbé-Jouy est quasiment au coin de la rue de Babylone, où il y a le lycée Victor Duruy, et qu'on était gâtés dans ma famille, je sais très bien que j'avais pris l'habitude, quand on avait des gros gâteaux le soir à table, et qu'on n'en prenait qu'une toute petite partie, je prenais les restes du gâteau et je les amenais à mes copines pensionnaires au lycée Victor Duruy. Bon voilà, c'est des souvenirs de jeunesse, mais c'est vrai que ça a été très très passionnant d'être au lycée et de voir et de connaître cette diversité de personnalités.
Mais alors, Fabienne Savanche-Reber, il y avait un contraste quand même assez fort, parce qu'il y avait cette existence gâtée par le milieu social et tout ce que ça entraîne, mais il y avait un climat familial qui était quand même assez détestable, puisque vos les relations entre vos parents se sont très vite détériorées.
Malheureusement, nos parents ont divorcé quand j'étais toute petite. Ma mère m'a d'ailleurs avoué un jour qu'il m'avait fait pour se réconcilier. Bon, en général, ça marche pas très bien. Voilà, donc ils ont divorcé lorsque j'étais toute petite. Et après, surtout, ils ont commencé à dire énormément de mal l'un de l'autre. Et ça, il faut jamais faire ça. Parce que vous détruisez les images parentales et c'est extrêmement douloureux pour les enfants.
Ils le disaient à vous?
Ils me disaient à ma sœur aînée, Sophie, et à moi. Ma sœur, d'ailleurs, essayait beaucoup de me protéger parce qu'elle était l'aînée. Et ils se sont répandus en horreur l'un sur l'autre, quoi. Voilà. Donc ça m'a beaucoup déstructurée, ça m'a beaucoup atteint. Et j'ai eu des années, moi, un petit peu difficiles sur le plan affectif et psychologique, mais bon, voilà, quand même.
Vous avez quel âge quand ils ont divorcé?
Ils ont divorcé lorsque j'avais 4 ans, mais ils se sont engueulés lorsque j'avais à peu près 12 ans. Et là, c'est vrai que j'ai eu des années où je me souviens, je pleurais tout le temps à l'école. J'essayais de rester à Sainte-Marie le plus longtemps possible le soir pour ne pas rentrer chez moi. Je faisais le ménage avec les femmes de ménage. Bon, l'atmosphère de la rue Barbé-Jouy n'était pas excellente. Bon, nos parents étaient assez absents. Mon beau-père était quelqu'un de peu expressif et très négatif. Ma mère, qui par ailleurs était une femme brillante, était plutôt dans une forme de superficialité.
Alors, attendez, là vous parlez de votre beau-père.
Ah, je vais trop vite, oui.
Non, vous parlez de votre beau-père, alors qu'on parlait du divorce de vos parents.
Qui a eu lieu quand j'avais 4 ans.
Vous avez 4 ans.
Mais alors, les bagarres, c'est quand j'ai 12 ans. Voilà, en gros.
Ah oui, les bagarres, mais entre 4 et 12 ans, qu'est-ce qui s'est passé?
Entre 4 et 12 ans, on passe de chez l'un à chez l'autre. C'est vrai qu'il y avait des manifestations de leur hostilité qui, par exemple, se sont portées sur mes cheveux.
Ah oui.
J'avais des cheveux très longs, que ma mère aimait, enfin me faisait porter. Et dès que j'allais chez mon père, il voulait couper mes cheveux. Donc ma sœur aînée défendait ma tignasse.
D'accord.
Et ça nous a d'ailleurs donné des rapports aux cheveux un tout petit peu névrotiques lorsque nous avons grandi. Mais enfin, on s'en est remis. Bon, c'est vrai que c'était pas facile, mais ça a été surtout très difficile à partir de l'âge de 12 ans.
Parce que là, ça s'est vraiment détérioré entre votre
entre ma mère et mon père.
Et votre père.
Voilà. Ma mère m'a élevée à partir de ce moment-là dans une forme de haine des servants Schreiber. Elle m'en disait beaucoup de mal. Elle a même essayé à un moment d'espérer que je sois la fille de mon beau-père. Elle calculait les dates, mais ça marchait pas. Ma mère voulait que je fasse un beau mariage. C'était ça son ambition. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on élevait les filles à l'époque. Nous, on nous élevait pour faire des beaux mariages. On nous mettait dans des rallyes pour être sûr qu'on rencontre les gens de notre milieu. Et il se trouve qu'elle avait d'ailleurs eu une histoire d'amour avec Valéry Giscard d'Estaing, qui lui avait dit « Je ne peux pas t'épouser parce que tu es divorcée ». C'est vrai qu'à l'époque, ça se faisait absolument pas divorcer. Nous, quand on était petites filles, on était les seules filles de divorcer, quasiment, dans cette école de Sainte-Marie. Donc, elle m'a élevée dans cet objectif. C'est pour ça qu'elle me disait... ma fille, tu n'as pas de nom, puisqu'elle détestait les servants Schreiber. Tu n'as pas d'argent, puisqu'elle considérait que j'étais pas une héritière. Tu n'as qu'un seul capital, ta virginité, marie-toi vierge. Voilà. Alors, d'accord. Moi, j'ai entendu ça pendant des années.
On pensait qu'il était plutôt 19e que 20e.
Voilà. Bon, ça fait une certaine pression sur vous.
Oui.
Et les premiers garçons que vous rencontrez sont absolument sidérés.
J'imagine. Mais alors, la famille maternelle, c'était les...
Alors, ma famille maternelle, c'était... Il y a une branche qui sont les Laroche,
oui.
Avec un arrière-grand-père ambassadeur de France,
oui.
Qui a d'ailleurs acheté le palais Borghese pour l'État français.
Le palais Farnèse.
Farnèse, pardon. Merci. Avec un père, Hervé Laroche, aussi banquier. Bon, mon grand-père avait, pendant la guerre, été un petit peu proche des Allemands, mais bon, il s'en est sorti. Et puis, on peut pas retenir que ça de lui. Du côté de la mère de ma mère, c'est une famille qui s'appelle Duvernois, qui est finalement la seule branche tout à fait française de mes origines, parce que cette famille Duvernois remonte au XVe siècle. Ils ont toujours été ou des musiciens ou des hommes politiques. J'ai des archives familiales absolument extraordinaires. Là aussi, mon arrière-grand-père a été secrétaire de Pétain. Donc j'ai des lettres de Madame Pétain, qui demande à mon arrière-grand-mère de lui rapporter de Paris de la charcuterie. Pourquoi pas? Donc ça, c'est de la bonne bourgeoisie française.
Donc il y avait les Laroche, et donc vous étiez élevé dans la haine des servants Schreiber,
enfin,
si j'ai bien compris, dans la haine en tout cas de votre père.
Voilà, ma mère a vraiment...
Oui.
Elle les détestait, elle m'en disait beaucoup de mal, et donc j'ai pris son parti plusieurs années, parce qu'elle manifestait le fait d'avoir été très maltraitée par cette famille, elle m'a raconté tout un roman familial où elle était une victime,
bon. Oui.
Et puis elle a commis l'erreur lorsque j'ai eu à peu près 13-14 ans... de commencer à me raconter ses infidélités. Et je suis devenue sa confidente. Et une petite fille ne peut pas entendre des choses comme ça. Quand vous êtes une jeune adulte, vous pouvez supporter beaucoup d'histoires familiales. Mais quand vous avez 12-13 ans et que votre mère commence à vous raconter la vérité sur plein de gens, des histoires d'enfants adultérins, de naturels... de coucherie, de tout ça. Bon, il faut que je passe un petit peu vite là-dessus, mais ça vous abîme toutes les images des gens de votre famille que vous vous êtes forgés et les affections que vous avez eues.
Oui, qui sont des références.
Qui sont des références. Et du coup, lorsque j'ai eu, je crois, 18 ans, j'ai mis un certain temps, je me suis dit, mais tout ça n'est pas... Je n'ai qu'une version de l'histoire, je vais aller chercher l'autre version. Et puis je suis partie voir mon père, Jean-Claude Servan-Schreiber, pour connaître la vérité et de me refaire une vision du roman familial. Donc je l'ai interrogé sur toute leur histoire, leur couple, leur passé. Et du coup, j'ai compris qu'évidemment, tout n'était pas noir d'un côté et blanc de l'autre. Et je me suis réconciliée avec cette famille Servan-Schreiber, avec la fierté de porter ce nom dont elle avait essayé de me faire honte. Et c'est vrai que j'ai découvert dans la famille Servan-Schreiber, non seulement mon père, qui est un grand résistant, un grand militaire, un homme de conviction, un grand journaliste, dont beaucoup de qualités de droiture et de courage ont influencé tous ses enfants, mais quelqu'un comme Jean-Louis Servan-Schreiber, qui a été plus tard vraiment le chef de toute une tribu. Et voilà, et donc je me suis refait une version du roman familial et je me suis senti mieux dans mes bottes.
D'accord. Jean-Claude, lui, c'était un militaire, un résistant, quelqu'un qui était très engagé, donc il n'avait rien de pétainiste, lui.
Non, rien du tout.
Et c'était l'inverse.
C'était l'inverse.
Et il était lui-même le fils de Robert, qui avait fondé les Échos.
Exactement.
Donc là, une grande famille d'origine juive.
Absolument, immigrés, qui se sont faits tout seuls.
Avec, donc, plutôt les deux frères engagés dans la presse, dans
exactement.
La presse économique.
Exactement. Mais ils ont d'abord été, si vous voulez, ce sont des juifs allemands qui arrivent à la fin du siècle dernier. La guerre de 14 éclate et leur mère dit aux trois frères, Robert, Émile et Georges, non seulement vous allez faire la guerre, mais vous ne revenez qu'avec la croix de guerre, sinon vous ne revenez pas. Parce que c'était, à l'époque, l'assimilation, l'intégration se faisait par le patriotisme et aussi par les beaux mariages. Donc il fallait qu'ils fassent des beaux mariages. Et c'est pour ça que mon grand-père Robert a épousé Suzanne Crémieux, qui était, elle, fille de sénateur du Gard. Et ça s'appelle des Juifs du Pape, ce sont des vieilles familles juives intégrées. Les Crémieux ont eu d'ailleurs un rôle très important dans la communauté juive.
Mais c'est les Crémieux du décret Crémieux?
C'est les Crémieux du décret Crémieux, absolument.
Alors vous dites en deux mots, ouais. Qu'était le décret Crémieux?
Le décret Crémieux, j'ai oublié la date, est le décret qui donne la nationalité française à tous les Juifs d'Afrique du Nord.
C'est à la fin du 19e siècle.
Oui. Exactement. Et j'ai un ancêtre qui est mort sur les barricades de la Commune à Marseille, un ancêtre Crémieux. Donc c'était des gens de gauche, radicaux, engagés.
Avec une grand-mère, Suzanne Crémieux, qui était vice-présidente du Sénat.
Du Parti radical,
du
d'abord.
Du Parti radical.
Alors, elle était très, très féministe.
Oui.
Elle a été une des femmes qui ont fait rentrer les femmes dans les partis politiques, puisqu'elles étaient interdites. Et dans les années, je crois, 25, les femmes radicales ont pris d'assaut la tribune du congrès du Parti radical, et elles ont dit, maintenant, ça suffit, nous voulons en être.
Mmh.
Et les récits qui existent sont que tous ces messieurs dans la salle leur disaient, mesdames, cette atmosphère de cigarettes et de fumée, vous allez tomber dans les pommes. Bon, ça n'est pas pour vous, vous ne pouvez pas vivre dans ce monde, etc. Et elles ont été admises dans les partis politiques, et ma grand-mère était vraiment une grande féministe, à sa façon... de l'époque, bien entendu, mais ça a joué.
Donc d'un côté, il y avait, si je puis dire, je résume, mais peut-être caricature un peu, mais il y avait les Laroche, qui était une vieille famille française, dans la bourgeoisie traditionnelle, avec une histoire mélangée et des relations un peu compliquées, peut-être, avec le pétainisme, disons. Et puis il y avait les Servan-Schreiber, qui, eux, étaient bourgeoisie juive d'origine allemande, ayant très bien réussi dans la presse. Et puis il y avait aussi les Stern. Alors les Stern, qui était le deuxième mari de votre mère, mais qui vous ont donné aussi des demi-frères.
Exactement.
Et notamment Édouard,
oui,
avec qui vous étiez très liés, les Stern, oui. Qui étaient des banquiers.
Voilà. Alors maman épouse en deuxième noce Antoine Stern, qui est un homme extrêmement beau, et qui est le patron de la banque Stern, qui est une banque qui a été... créé à la fin au moment des guerres de Napoléon. Napoléon III voulait faire la guerre, il avait besoin d'argent. Et là, il y a toute une bourgeoisie juive et protestante, les Pereire et autres, dont les Rothschild et compagnie, dont les banques ont émergé, si je puis dire, en disant les choses rapidement. Et c'est Antoine Stern qui nous recueille, maman, son frère, ses filles, notre nounou, et tout le monde va vivre dans ce bel hôtel particulier de la rue Barbet-Jouy.
Donc banquier, homme d'affaires... homme de presse, et puis il y avait aussi le lien qui s'est établi avec les Mendès France.
Alors du côté des Servan-Schreiber, la sœur de mon père, Marie-Claire, est la deuxième femme de Pierre Mendès France. Voilà, ça a été le grand homme de sa vie, elle a été longtemps dans sa vie, pendant qu'il était encore marié avec Lily Sicurel. Elle l'a connu jeune, ça a été une très grande passion, et elle l'a épousé, et ils ont vécu ensemble jusqu'à sa mort.
Voilà.
Et il a vécu dans ce beau château de Monfrin.
Voilà, donc tout ce petit monde se retrouvait à Monfrin, dans ce milieu. Mais vous vous rendez compte un peu du milieu dans lequel vous évoluiez, ou ça vous était naturel Est-ce que c'était...
Non, je m'en suis rendu compte assez vite. Alors en plus, pour ne rien vous cacher, j'allais au golf de Mortefontaine, qui est un des golfs les plus chics de France, où j'avais toute une tripotée d'amis merveilleux. J'allais dans les yacht clubs. Enfin, j'ai eu une jeunesse dorée. Mmh. Mais je me suis rendu compte assez vite que j'étais privilégiée. Parce qu'il suffit de descendre dans le métro, vous voyez bien que, voilà, vous n'êtes peut-être pas tout à fait comme tous ces gens que vous côtoyez. Donc, bon, moi, j'ai pris conscience assez vite que j'avais eu beaucoup de chance sur ce plan-là. Bon, je participais à Sainte-Marie, à des groupes missionnaires, je m'occupais des jeunes aveugles dans l'institution de Duroc. Voilà, j'essayais déjà de m'occuper des autres, ça c'est vrai.
Et puis arrive mai 68. Alors là, c'est un... Vous n'avez pas de culture politique particulière, parce que votre famille est plutôt à l'UNR, famille gaulliste, disons.
Très gaulliste.
Sauf la partie Mendès, évidemment.
Bien sûr.
Mais les autres, oui. Et en 68, d'un seul coup, c'est une rupture complète.
Oui, parce que 68 est un choc pour toute ma génération, bien évidemment. Ce qui était le plus impressionnant, c'est que, dont les gens ne parlent peut-être pas beaucoup, c'était à quel point les gens se parlaient dans les rues de Paris. Il y avait des groupes de paroles à tous les coins de rue. C'était absolument incroyable, comme si des barrières entières étaient tombées. Et on marchait, et tout à coup, il y avait des gens qui parlaient, on dialoguait avec eux, et tous les milieux se mélangeaient. Enfin, c'était une atmosphère extrêmement singulière. Bon, moi, d'un côté, maman fait des provisions, parce que tout le monde a peur que la guerre civile arrive, et dans notre maison de campagne, elle amasse des provisions sur lesquelles on a vécu pendant 5 ans, je crois. Enfin, comme toujours, là, le sucre, comme aujourd'hui, le sucre, les pâtes, et je ne sais quoi. Et puis alors, elle était très fière, parce qu'elle disait toujours, nous ne quitterons pas la France, et presque tous les soirs, elle me disait, les intels sont partis en Belgique, les intels sont partis en Suisse, mais nous ne quitterons pas la France. Bon. Et mon père, lui, c'est un petit baron gaulliste, donc il est tout à fait du côté de De Gaulle, et il se prend aussi le choc de cette révolte étudiante et cette immense grève. Voilà, et moi je me promène partout,
oui.
Je vais évidemment tous les soirs au Quartier Latin, comme oui. Tout le monde, comme la jeunesse dorée d'ailleurs, hein, qui y allait. J'ai réussi même, on va rentrer dans la Sorbonne, je me souviens du jour où Cohn-Bendit est revenu d'Allemagne, les cheveux teints en noir par Marie-France Puisier qui le racontera plus tard. Et bon, alors c'est l'affolement général, il faut absolument avoir accès à Danny Cohn-Bendit. Et moi, je vois un photographe, je lui dis, passez-moi votre appareil photo, et je me glisse dans la salle et je rencontre Danny Cohn-Bendit, quoi. Donc on était très au courant de ce qui se passait. Moi, je comprenais, j'étais très déchirée parce que je voyais une famille très inquiète de ce qui se passait, m'expliquant que le communisme, c'était l'horreur absolue, ce qui n'est pas faux dans certains pays, bien sûr. Et puis, je voyais en même temps tous mes copains qui s'engageaient, qui allaient dans les manifs et qui bougeaient. Donc, il fallait que je me fasse ma propre opinion de tout ça. Et ça, je l'ai faite un petit peu plus tard, pendant l'été 68.
Pendant l'été 68, chez les Duhamel, la famille de Jacques Duhamel, vous êtes lié avec son fils, Jérôme.
Avec ses fils,
avec
voilà.
Ses fils. Et c'est là aussi où vous rencontrez... Pierre Wiazemski.
Exactement. Alors, nous étions amis avec la famille Duhamel, d'ailleurs depuis longtemps, parce que dans cette
tribu,
les Giscard d'Estaing, les Duhamel, les Servants Schreiber Jean-Jacques, les Servants Schreiber Jean-Claude ont été très liés lorsqu'ils étaient jeunes. Ils louaient des maisons ensemble, ils avaient des histoires ensemble. Bon, c'était un groupe qui s'est énormément fréquenté, donc j'ai connu les Duhamel très petites, mais on est devenus amis plus tard. Et Jacques et Colette Duhamel, qui étaient des gens absolument merveilleux, avaient une très grande propriété à Sanary, où je vais passer l'été. Bien entendu, il y avait énormément de jeunes garçons, puisque les Duhamel étaient 4 fils plus 3 cousins qui sont les Fombrintano. On était à l'été 68, on venait de vivre une chose historiquement très importante, et les garçons discutaient politique avec Jacques sur justement le gauchisme, l'extrémisme, comment changer la société, comment refaire le monde. Et Jacques, qui était d'une autre génération et qui avait d'autres convictions, voilà, c'était des vraies grandes discussions politiques et philosophiques absolument passionnantes.
Jacques Duhamel qui deviendra ministre de la Culture sous Georges Pompidou.
Exactement.
Quelques années plus tard.
Et qui était un vrai grand homme de culture et d'ailleurs de raison.
Et vous, dans cette conversation générale, vous ouvriez vos oreilles toutes grandes ou vous preniez parti
Non, moi je parlais pas. Moi j'étais morte de complexe. J'avais tout à fait conscience de mes limites et de mon inculture et j'écoutais. Voilà. Mais ça m'a quand même bien stimulée, mais j'écoutais.
Et Pierre Wiazemski, il participait ou il dessinait seulement?
Pierre Wiazemski, il dessinait. Alors, il avait de fortes convictions parce que c'est un homme qui a toujours eu une très grande liberté de penser et des opinions souvent très originales, mais c'était à l'époque son mode d'expression. Il dessinait des petits CRS partout, parce qu'on avait tous été quand même très frappés par ce qui s'était passé. Mon cousin Jean-René de Fleurieu, il avait 18 ans, il était dans les manifestations et au premier rang. Il y a des photos de lui avec un masque au premier rang. Toute notre génération, finalement, a adhéré à ce mouvement de révolte qui nous libérait aussi, qui nous libérait de rapports très autoritaires, figés, conservateurs. Et ça a été toute cette époque aussi de révolution sexuelle très importante. Donc, on comprenait qu'il se passait quelque chose d'important pour notre génération et on y adhérait. Et la richesse de ces discussions me fait comprendre une nouvelle vision du monde. Et c'est vrai que, du coup, je me suis dit, bon, en fin de compte, c'est eux qui ont raison. Moi, on m'a appris à Sainte-Marie des Invalides qu'il y avait des riches et des pauvres, mais en réalité, ça s'appelle des classes sociales. Bon, on m'a appris qu'il fallait s'occuper de charité, mais en réalité, c'est de la solidarité. Et voilà, je me suis refait une vision du monde. Et là, il y avait effectivement un jeune homme extrêmement beau qui se levait tous les jours à midi, qui ne communiquait avec le reste de cette immense troupe de jeunes qu'en dessinant des petits CRS, qui ne m'adressait évidemment à peine la parole, alors que les autres étaient un tout petit peu émoustillés par moi. Et je suis tombée amoureuse, évidemment, du seul qui s'occupait pas de moi, qui est Pierre Wiazemski, le petit-fils de François Mauriac, et qui est devenu Viaz, le dessinateur.
Et qui était un prince russe.
Et qui était un prince russe, Rurikovitch, ça veut dire qu'il descend des tout premiers russes, aristocrates, qui arrivaient, je crois, des pays nordiques, là, vikings. Très, très grande famille russe, oui. Absolument.
Donc c'était une sorte de rébellion, mais enfin qui restait quand même dans un cadre relativement établi par rapport à votre famille d'origine.
Bien sûr.
Mais c'était la première rupture.
Oui, mais le mouvement de 68 est allé au-delà des classes populaires. Oui. D'abord, c'était la petite bourgeoisie, c'était les étudiants. Les étudiants sont souvent des petits bourgeois. Donc, et puis ça a englobé toute une génération. C'est toute une génération qui s'est mis des défis de transformer les rapports d'autorité, de vivre pleinement, des vies de femmes beaucoup plus complètes. C'est une génération qui a voulu tout conquérir.
Donc, s'achève finalement cette première partie de votre jeunesse, en pleine effervescence de mai 68, et il va se produire un événement majeur dont on parlera demain. Merci Fabienne Samarche-Rébert, à demain.
Merci à vous.
Retrouverez demain la suite de cette rencontre de Jérôme Clément avec Fabienne Servan-Schreiber. À voix nue, réalisation Vincent Deck, prise de son Georges Thau, attaché de production Daphné Abgral, coordination Sandrine Trainer. À voix nue s'écoute en ligne et ce podcast sur franceculture.fr.